Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer 60 minutes incroyables en ondes ce soir, puisqu'on a le plaisir d'avoir un coach, un conférencier, un coach sportif de renommée nationale. C'est un auteur aussi, auteur de deux livres jusqu'à maintenant et peut-être même plus dans un avenir rapproché. J'ai le plaisir de jaser ce soir avec Alain Lapointe. Salut, coach Lapointe!
Bonsoir tout le monde!
Est-ce qu'on vous appelle encore coach après toutes ces années?
Ben, d'après moi, c'est un héritage. C'est comme on dit, sénateur, tu es sénateur pendant un laps de temps, puis ça te garde. Mais dans le monde du sport, je prends ça comme une marque de reconnaissance pour le temps qu'on a consacré aux autres.
Ouais.
Oui, je me fais appeler tout le temps coach Lapointe. Ouais.
Ben, vous avez marqué des gens, j'imagine, avec au fil des années. Vous, on vous a connu avec le Vert et Or de Sherbrooke.
Exact, exact. J'ai été le premier coach. Pendant les 5 premières années, par la suite, j'ai pris ma retraite, puis j'ai été jusqu'à ma fin de ma carrière à l'Université de Sherbrooke, au printemps dernier, directeur général du programme.
OK. Puis avant ça, avant d'être coach, est-ce que vous étiez professeur d'éducation physique? Parce que je sais que vous avez des études là-dedans.
Oui, j'ai une formation de travailleur social puis d'éducateur physique. J'ai œuvré au niveau collégial, puis au niveau, même tu sais, quand on parle de sport, je n'ai pas juste fait du football. J'ai fait des sports de combat comme tel,
parler,
autant
hein.
comme athlète, puis tout ça, mais aussi au hockey, j'ai coaché dans le junior tiers 3, là, tiers 2 qu'on appelle junior 3A. Puis à un moment donné, la première organisation qui m'a donné un job à temps plein, ça a fait le choix que j'allais au football plutôt que poursuivre au hockey.
OK. Puis, partir une équipe de hockey comme le Vert et Or, ça, vous avez dû faire face à de l'adversité à certains endroits, là?
Bien, partir une équipe comme le football.
Le football, oui, comme le Vert et Or,
excusez. Okay,
Oui,
c'est pas grave, pas de mal, pas de mal. Écoutez, c'était toute une épopée. D'ailleurs, j'ai écrit un livre là-dessus, La naissance d'une équipe, parce que c'est ça, là. Moi, quand je suis arrivé là en 2002, fin de l'année 2002, il n'y avait rien, pas de stade, pas de vestiaire, pas de joueurs, pas d'équipement, même pas d'entraîneur, partait à zéro. J'ai pris mon stylo qui m'a servi pour la conférence de presse à signer de façon fantoche un contrat devant les médias. Ben, le même stylo que je l'ai sorti de mon veston sur l'heure du midi après le lunch, puis je disais, OK, on part. Une réquisition, une table, une chaise, un téléphone. Tu sais, on partait là, là. Il n'y avait rien, absolument rien. Alors, c'était toute une épopée.
Est-ce que vous avez fait face à l'adversité pour partir une équipe de foot? Ça doit être compliqué. Tu sais, je pense au Rouge et Or qu'on a ici à Québec. Glenn Constantin est là depuis plusieurs années. Il y a déjà des choses qui avaient été faites avant son arrivée. Puis lui, il fait son recrutement. Ça a l'air extrêmement compliqué. Mais de partir à zéro, je pense que c'est une page blanche carrément.
Écoutez, on a été confrontés au Rouge et Or. Puis là, c'est intéressant, vous êtes dans la région de Québec, donc il y a beaucoup d'amateurs du Rouge et Or, et avec raison, avec toute la palmarès qu'ils ont. Ça faisait, avec le camp d'entraînement, puis la première, deuxième semaine, on avait 26 jours d'existence. Puis là, on jouait contre les Mathieu Bertrand, Dominique Picard et compagnie, Marc-André Dion, qui étaient déjà champions canadiens. Ils avaient déjà gagné la Coupe Vanier à cette époque-là, en 2003. Alors, on a perdu un match à la télévision d'RDS, 94-0. Je vous dis, 94-0, là, calculez ça là, en hockey, là, si on fait un transfert de toucher par des points, c'est 15-0. Puis si vous transférez ça à la boxe, ben d'après moi, le boxeur, il n'a plus de dents dans la bouche. Fait que vous voyez vraiment, là, c'était une épreuve exceptionnelle. Et puis t'es à la télé, ça veut dire que tu peux même pas te cacher. Ah. Tout le monde aux quatre coins de la province te voit ce match-là, c'était suivi comme vous le savez. Mais moi, la beauté de ça, c'est oui, il faut passer par là, il faut passer par les débuts, il faut accepter ça, qu'avant les victoires, il va y avoir des défaites, puis quand tu bâtis, il faut que tu acceptes de manger ton pain noir avant de pouvoir justement avoir du gâteau. Mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler, puis c'est ça que je relate dans le bouquin, c'est que 2 ans plus tard, 2 ans, 24 mois, pas 6 mois, pas 12 mois, 24 mois plus tard, le temps de construire un par un ton équipe, le Vert et Or avait fait une incursion dans les 10 meilleures équipes au pays. Exceptionnel. Fait qu'il faut se rappeler de ça. La persévérance, une attitude positive, faire fi des autres, rentrer dans son intérieur d'équipe, puis bâtir là-dessus.
Ouais.
C'est comme ça, on a été chercher des athlètes, le repêchage, le recrutement, parce que c'est pas un repêchage. Vous êtes au courant, Coach Constantin met beaucoup d'ardeur avec son équipe pour recruter. Ça veut dire que le bon joueur qu'on veut attirer, exemple à Québec ou à Sherbrooke, a la possibilité d'avoir 6, 8, 10 propositions intéressantes. Alors, il faut que tu saches aller chercher les avantages qui vont faire en sorte que cette personne-là se retrouve dans ton équipe. Et surtout, on n'y pense pas assez, mais surtout, pas contre toi non plus. Fait que si tu recrutes un bon joueur, si tu ne l'amènes pas chez vous, il est contre toi aussi. Il faut se rappeler de ça. Tu vas l'avoir dans la face pendant 5 ans. Fait que t'es bien mieux de travailler pour l'amener chez toi.
Exact. Il devait avoir des sources de stress, mais une défaite de 94-0, moi, je pense à ça en tant que joueur. J'invite ma famille au stade, bien entendu. S'ils peuvent pas, famille, amis, ben écoutez-moi, je vais être à la télé, je vais être à RDS. Puis là, à la fin du match, c'est 94-0. Pour vous, qui êtes un homme d'expérience, qui savez que, regarde, oui, il faut passer par là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit aux jeunes, mais pour les jeunes, dans leur tête, ça devait être la fin de leur carrière universitaire.
Écoute, il y a deux anecdotes intéressantes. La première, un de mes oncles qui était venu, parce que je disais, Marc-André Dion, qui coach le collège Notre-Dame à CNDF, c'est mon cousin. Puis son oncle, ben son grand-père, c'est mon oncle. Quand on est dit qu'il a joué à l'époque dans la Ligue nationale avec les Red Wings de Détroit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on est avait 80, 89 ans, il était venu pour voir Marc-André qui jouait pour le Rouge et Or. Puis après le match, je suis son neveu, fait que, tu sais, il vient me voir. Puis si tu qu'est-ce qu'il me dit en homme d'expérience, il dit « Alain, j'espère que tu as un bon contrat. » Mais moi, je n'avais vu d'autre. T'sais, écoute, j'ai fait des sports de combat. Au collégial 3A, collégial 2A, j'avais eu des saisons avec 10 victoires, aucune défaite. Puis j'ai eu des saisons, 0 victoire, 10 défaites. Moi, quand je suis arrivé là, j'avais 42 ans. J'étais prêt pour la tempête. Pas mes gars de 20 ans, pas mes gars, parce que tu sais, c'est tous des jeunes, là. Parce que tu recrutes, tu peux pas aller faire un échange avec l'équipe de, je sais pas moi, d'Acadia, puis non, tu pars à zéro, tu pars avec des jeunes du collégial. Puis il faut se rappeler aussi, à cette époque-là, 2003, qu'est-ce qui, en 2002, est arrivé, c'est les Carabins. Fait que le surplus de bons joueurs qui n'étaient pas à Québec, ils ont fait comme un vacuum, ils sont tous retrouvés à Montréal. Alors moi, je devais partir avec des gars de 19-20 ans qui sortaient des rangs collégiales. Puis là-dessus, ça ne veut pas dire que les meilleurs voulaient aller justement dans un endroit qu'ils savaient qu'il serait difficile. Fait qu'ils voulaient vraiment amener des gens à dire « ben let's go, on va bâtir ». Puis il y en a qui ont répondu à l'appel. Puis d'année en année, on était capable de chercher des très bons joueurs. Puis c'est de même qu'on a démarré le programme. Mais moi, le deuxième point, je vais te dire, oui, c'est dur. Quand tu vois 70 gars dans vingtaine, des jeunes universitaires avec des yeux là, grands comme ça, puis ils te regardent en disant rien, puis tu comprends qu'ils te regardent, puis ils disent « Qu'est-ce qu'on va faire, coach? Qu'est-ce qu'on va faire? » Puis là, toi, là, c'est le meilleur voyage intérieur. Tu sais de quel bois que t'es fait. Tu es là, tu dis... puis tu sais, t'es pas sûr, là, t'es pas un héros, là. Tu sais, il faut que tu te parles, parce qu'il faut que tu... La confiance, ça commence par toi, si tu veux la donner aux autres. Mais à un moment donné, quand t'es tout seul dans ton bureau, tu dis « Dans quelle galère je me suis embarqué? » Puis à un moment donné, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui a du cran, puis être capable de dire moi, j'en ai vu des situations difficiles dans ma vie, là. Puis j'ai appris une chose qui est importante. Qu'une claque sur la gueule, ça se guérit. Mais la peur, ça se guérit pas. La peur, ça se guérit pas. Si tu as peur d'avancer, si tu as peur d'être des premiers, si tu restes dans le peloton, ben, tu n'auras jamais de médaille. Il faut que tu sortes du peloton. C'est comme n'importe quoi. Il faut que tu te démarques. Puis si tu te démarques, tu t'exposes. Puis ceux qui ont peur de s'exposer, ben, ils n'avaient pas postulé pour ce job-là. Moi, j'étais prêt à faire ça parce que je savais à 42 ans qui j'étais, par où j'avais passé. Puis je me disais, hey, hors d'onde, on parlait, c'est un jeu versus les enjeux. Moi, mes gars, là, sont tous revenus à l'université le lundi matin. Là. C'est pas comme partir au Vietnam ou faire le débarquement de la Normandie.
Exact.
C'est d'être capable de ramener ça dans une phase, de dire, hey, il y a un processus. On est au début du processus. Ça prend du courage, de la persévérance, de la détermination, mais ça ne veut pas dire que ça fera pas mal. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas peur, mais on va passer à travers. c'est ça qu'on a fait.
Oui, puis à chaque défaite, vous aviez certains ajustements que vous deviez faire par la suite. Puis je me rappelle d'une conférence de presse que vous avez peut-être vu passer, conférence de presse de Patrick Roy, quelques semaines après qu'il ait commencé son job d'entraîneur chez les Islanders de New York. Il n'y avait pas nécessairement de victoire. Ce qu'il disait, lui, c'est qu'il regardait les statistiques avancées, puis il voyait qu'il y avait certains endroits où les Islanders, même s'ils avaient perdu, avaient progressé. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'en regardant les statistiques, il regardait pas les victoires, les défaites, il regardait les statistiques, puis il disait, OK, ben on a plus de temps de possession de rondelles, ce qui fait en sorte que ça laisse peut-être un peu moins la chance à l'autre équipe de nous en mettre une dedans. Il regardait pas les victoires, il regardait pas les défaites, il regardait les statistiques. Est-ce qu'on s'est amélioré, oui ou non? J'imagine qu'avec les premières saisons du vert et or, vous deviez faire ça aussi. Quel endroit qu'on pourrait améliorer qui ferait en sorte qu'on perdrait peut-être avec un score peut-être un peu moins élevé match après match.
Exact. Et ça, là, je vais te dire, on a commencé à avoir des statistiques internes parce que, bon, à l'extérieur, comme tu vois, c'était pas concluant, mais il faut savoir que la deuxième année, il y a eu 66 % de joueurs qui n'étaient pas là dans la première. C'est-à-dire qu'il y a seulement eu 33 % des joueurs qui ont survécu à la première année. Moi, je n'ai pas dit on va baisser les bras. Non, on donne des critères, puis on va aller chercher les meilleurs. Puis je ne sais pas s'il y a eu une grâce divine, ces années-là, là, le recrutement était exceptionnel. Était chercher les meilleurs joueurs du niveau 3A, ben, maintenant qu'on fait la division 1, division 2, puis on a bâti là-dessus. Puis il y a eu une chose qui était intéressante, il y avait un vieux vétéran qui... Parce que, tu sais, dans le règlement universitaire, tu n'as pas le droit, quand tu as joué pour une équipe, tu ne peux pas jouer l'année d'après avec une autre équipe. Mais moi, parce que j'avais coaché très longtemps dans le collégial, j'avais beaucoup de mes joueurs qui étaient ailleurs dans le circuit canadien, puis plusieurs à Ottawa. Puis il y a plusieurs de mes joueurs à Ottawa qui ont accepté en 2003 de ne pas jouer, puis qui restaient un an ou deux ans à jouer universitaire, puis ont fait un retour à Sherbrooke parce que d'une part, c'était au Québec, puis Ottawa, ils venaient d'avoir gagné la Coupe Vanier en 2000. Fait qu'on avait des gars qui avaient du bagage, qui savaient gagner. Fait que j'ai été capable de récupérer 8 à 9 joueurs de ce groupe-là des GGs d'Ottawa. Et par la suite, des gars qui, librement, pas de maraudage, t'as pas joué cette année-là pour des raisons qui leur appartenaient, n'avaient pas joué toutes leurs années. Ben, je vous donne juste un exemple. Un gars qui avait été repêché à la première ronde par les Alouettes, Brock Fleming, 6 pieds 7, 330 livres. Max Dufault, qui était capitaine d'équipe, porteur de ballon, des secondaires, des batteurs, justement, etc., etc. Fait que déjà, moi, je savais, puis j'avais fait une radio au niveau du recrutement, juste à penser pour les gens de Québec, Pierre-Luc Labbé, qui a joué pendant 6 ans dans la CFL, Alain Dorval, qui était le MVP collégial 3A à l'époque avec FX Garneau, puis là, je pourrais t'en nommer, on pense à Diego Rattel, qui faisait la pub et le beau temps, dans la deuxième division à Victoriaville. Fait que j'avais récupéré parce que là, il y en avait de la place. Pourquoi? Moi, je leur disais aux joueurs, je disais un peu comme, tu sais, je leur disais, pourquoi tu vas attendre 2-3 ans pour rayonner quand tu peux le faire dès cette année? Es-tu assez fort? Tu crois-tu assez en toi pour? Puis là, moi, je bâtissais mon équipe. La première chose quand tu bâtis une équipe, va chercher des joueurs de caractère. Va chercher des joueurs de caractère. Tu sais, des fois, le premier, là, la star, là, lui, va chercher un exposeur puis un environnement puis un encadrement qui va vouloir performer. Mais le deuxième, là, on appelle ça en termes de sport, le second best, là, lui, il était dans l'ombre de... Ben, Alain Dorval, là, il avait joué tout son football dans l'ombre de Yao. Là, il se disait, je vais-tu aller pendant 3 ans en arrière de lui pour avoir peut-être ma chance à ma dernière ou avant-dernière année, quand je peux jouer 5 ans pleins à Sherbrooke. Puis, tu sais, c'est toute cette dimension-là qu'on a développée. Mais le principe que je disais, les gars, le respect, ça commence par la crainte. Le respect au football commence par la crainte. Commençons à avoir du caractère. Montrons qu'on est dur. C'est pas le fun de jouer contre nous autres. Puis, graduellement, vous allez prendre confiance. La confiance amène justement cette attitude-là qui va amener les victoires. Puis il faut savoir une chose. À la première année de Montréal, là, ils n'ont gagné aucun match. La première année de Laval, ils n'ont gagné aucun match. Moi, je le savais en allant là que je n'allais pas gagner aucun match à ma première année. Mais c'est comme un peu regarder Vision mondiale le dimanche matin à travers la télé, l'écran de télé, ça fait dur, c'est pas facile le tiers-monde. Puis, ah, je prends le téléphone, je vais faire un don. Mais là, c'était toi qui étais dans la télé. Puis, je vais te dire, on l'a vécu le tiers-monde la première année. Mais dès la deuxième année, on a été chercher 3 victoires. C'était déjà mieux que
Ouais.
Laval à sa deuxième année. Puis, la troisième année, on jouait pour 500. La quatrième année, on faisait les playoffs, puis la dernière année, on était dans le top 10 canadien. Mais tu sais, ça partit à zéro, là.
Vous
Partit à zéro.
bâtissiez là-dessus. Je vais vous poser une question, M. Lapointe. Bon, vous avez été coach pendant plusieurs années, vous avez fait du foot, vous avez fait du hockey aussi. Vous avez même eu une carrière vous-même comme un jeune sportif. Dans un autre domaine, on aura l'occasion d'en parler. Est-ce qu'au fil du temps, les générations sont plus dures à coacher ou faut juste les coacher différemment? Puis c'est quoi la différence de votre génération à vous, exemple, quand vous étiez jeune versus cette génération-là de jeunes de 20 ans qu'on doit coacher, on doit trouver les mots appropriés, on doit pas trop les brasser, faut mettre peut-être plus l'accent sur le positivisme. Comment on fait pour s'adapter aujourd'hui quand on est un gars comme moi à 40 ans ou un gars comme quelqu'un qui est dans sa voiture qui a 60 ans, qui est coach d'une équipe de hockey? Comment on fait pour s'adapter à cette génération-là que nous autres, c'était pas compliqué. Les entraîneurs nous gueulaient après, on embarquait sur le terrain puis on voulait tout arracher. Mais aujourd'hui, si un entraîneur gueule après un jeune de 20 ans, le jeune, il va se recroqueviller sur lui-même. Comment vous avez fait pour vous adapter, puis comment les gens peuvent faire pour s'adapter aujourd'hui à cette génération-ci qu'on a là présentement?
Écoute, moi, j'ai commencé à coacher en 84, tu sais. Puis, tu vois, j'ai arrêté de coacher en 2007. J'en ai vu des générations de jeunes là, à travers tout ça. Puis, la façon que j'étais comme coach, c'est l'entraîneur qui doit s'adapter à sa clientèle et non la clientèle doit s'adapter. Puis, ceux qui ont vécu longtemps, bien, on prend souvent notre sport national, le hockey, tu regardes juste Scotty Bowman et t'as pas pareil quand il était à Montréal puis quand il a fini
Ah
à
non.
Pittsburgh puis à Détroit, des affaires comme ça. Même lui a évolué. Puis on a des exemples de ça, c'est sûr. Mais moi, je pense, moi, ma philosophie au niveau du coaching, c'est faire sortir le meilleur de ton homme. Puis le plus beau compliment qu'on m'a dit, il disait, hey, coach, toi, là, quand tu nous parlais, là, on mesurait, tu sais, on mesurait 5 pieds 10. Mais quand on sortait sur le terrain, on pensait tous qu'on faisait 6 pieds 2. Bien, va chercher le meilleur, donne confiance, crois en tes joueurs si tu veux qu'ils croient en toi, puis démontre-les par les actions concrètes. Puis fais un système que tu vas permettre à ton athlète de performer. Fais pas un système pour toi, fais un système pour tes athlètes. Et que tes athlètes vont te respecter par rapport à ça parce que tu le remets dans une situation de réussite. Puis ça, ben c'est ça qui est intéressant. C'est le même que tu bâtis une relation. Parce que le coaching, là, fondamentalement, c'est le secret de bâtir une relation significative entre l'athlète et son entraîneur.
Puis je vais poser peut-être la question différemment. J'ai eu une discussion avec quelqu'un qui évolue cette année pour le Rouge et Or. Il va être à sa deuxième année. Puis il disait que chez le Rouge et Or, ce qu'il trouvait particulier, lui avait eu un père comme les pères à l'ancienne, c'est-à-dire c'est important de gagner. On voit que de plus en plus, à l'école ou encore au hockey, il y a des gens qui disent oui, gagner c'est une chose, mais s'amuser c'est encore mieux et tout ça. Puis lui, il se ramasse avec des gars qui, eux autres, ça leur dérange pas tant que ça de perdre. Alors que lui déteste perdre pour mourir. Tu sais, il y a des gens dans l'équipe qui veulent gagner à tout prix et d'autres qui se disent, ben moi, je suis un athlète, je suis confiant que des fois, on va en gagner, des fois qu'on va en perdre. Tu sais, vous parlez de joueur de caractère tantôt. Ben le gars que je vous parle, c'est un joueur de caractère. C'est un gars qui est prêt à tout pour gagner. Puis là, ben, ces générations-ci sont, ben, l'important, c'est pas nécessairement de gagner, l'important, c'est de s'amuser. Ça doit être difficile pour un coach de la vieille école qui s'est pas adapté comme vous avez réussi à vous adapter au fil du temps. Ça doit être difficile d'un coach qui veut tout le temps gagner, d'avoir des jeunes qui se disent, ben, c'est pas si pire que ça, coach, on a quand même joué un bon match.
Ouais. Là-dessus, je te dirais, écoute, il y a des niveaux de compétition, puis il y a des catégories de compétition. Quand tu fais du sport d'excellence, c'est le top de la pyramide, tu joues pour gagner, fait que c'est faut que tu aies l'attitude pour aller dans ce niveau-là. Si tu veux là, être compétitif, il y a des catégories, il y a des classes pour ça. Alors ça, c'est important d'établir ça de façon systématique. Si tu viens dans ce niveau-là de football ou d'hockey, Ben, c'est de la compétition à 100 %. Il faut que tu aies le profil pour aller dans ces ligues-là. Sinon, choisis. Puis là, si je trouve ça le fun, tu sais, quelqu'un qui dit non, moi, je suis un étudiant athlète, c'est aussi parfait, reste dans le domaine des étudiants athlètes. Mais si tu vas junior majeur, ben, tu vas être avant tout un hockeyeur qui va à l'école. Tandis que si tu vas dans le milieu collégial, première division ou encore universitaire au hockey, ben, tu vas être avant tout un étudiant qui fait du hockey à haut niveau, là. C'est important, ça.
Comment c'était la lutte gréco-romaine quand vous la pratiquiez?
C'était vraiment tough. C'était vraiment tough. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de sport. Puis, tu sais, au hockey, j'étais un gars qui était dur. C'était dans mon ADN, là, la confrontation, puis le combat. J'ai fait de la boxe amateur aussi. Puis la lutte, c'est parce que tu n'as pas de répit. À moins vraiment que tu enlèves la pression sur l'autre, floum, tu retombes au tapis. Puis, tu sais, quand on voit un lutteur, les oreilles, ben moi, les oreilles en souffleur, le nez cassé, les dents vissées, un coude refait, ben, ça dit tout, là. Tu sais, ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qu'on voit dans à la télévision, la lutte professionnelle arrangée. Puis, il y a des athlètes là-dedans, mais on se comprend que c'est du théâtre, puis c'est de la comédie avec des sportifs. Mais la lutte olympique, je peux vous dire une chose, c'est le sport le plus dur que j'ai jamais fait dans ma carrière. Puis j'en ai fait, là. J'ai fait même des ultra-marathons, j'ai fait des marathons, mais l'exigence de la lutte olympique, tes fréquences cardiaques sont à 200, OK? À 220, les veines pètent, là. Puis tu peux pas enlever la pression. Alors ça devient vraiment un sport exceptionnel. Puis tu sais, quand je disais d'entrée de jeu, une claque sur la gueule, ça se guérit. La peur, ça se guérit pas. Fait que, tu sais, quand tu as passé à travers ce cheminement-là, là, il n'y a plus grand monde qui te font peur par la suite. Puis tu te dis, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Une taloche? J'en ai eu déjà.
Ouais.
Puis je suis pas mort. Fait que, tu vois, c'est pas ça qui va te faire reculer.
Mais comment vous en êtes venu à faire ce choix-là de pratiquer de la lutte gréco-romaine au Québec? Il me semble que ce ne serait pas mon premier choix. Il y a du baseball, il y a du soccer, il y a du hockey.
Ouais. C'est une drôle d'histoire. C'est une drôle d'histoire. On va prendre le temps, là. Écoute, moi, j'étais au camp des Alouettes, les camps de perfectionnement des Alouettes. Puis j'étais avec un de mes amis qui s'appelait Richard Babin, mais c'est un anglophone. Fait que son vrai nom, c'était Richard Babin. Puis il venait de Pierrefonds, High School Pierrefonds. Puis dans le monde anglophone, autant aux États-Unis, tu sais, on pense toujours football puis basketball, mais il y a autant d'équipes de lutte. Il y a autant d'équipes de basketball ou de football. C'est très, très populaire aux États-Unis. Ça l'est vrai aussi pour toutes les institutions anglophones à l'extérieur du Québec. Quelques-unes même quand même dans la région de Montréal anglophone, mais chez les francophones, c'est moins populaire. Fait que je me suis retrouvé un week-end, camp d'entraînement avec les Alouettes. On est des jeunes de 20 ans, puis j'étais hébergé chez lui à Pierrefonds, puis il dit, viens à Riverside. On va aller faire un peu de poids parce qu'on a les pratiques tel soir. On va faire un peu de poids. Puis, à un même endroit qu'on allait, il y avait une salle de combat à côté. Puis, lui, Richard, il dit, viens, il savait que j'aimais ça de me confronter. Il savait que c'était dans mon tempérament de secondeur intérieur d'aimer le jeu rude. Il dit, viens, je vais te montrer des prises, puis tout ça. Fait que moi, j'avais un vécu déjà de boxeur, puis j'avais joué junior au hockey. J'étais comme dans la catégorie la chaise des toughs. Fait que ça me faisait pas trop peur. Fait que je disais OK, puis je trouvais ça drôle. Tu sais, je disais, hey, vous autres, avec vos maillots de bain, ça me fait rire, tu sais, avec vos bretelles. Mais je lutte avec mon ami Eric, puis il me dit un peu le principe, tombe pas sur, tu sais, faut pas aller au sol, une seconde, les deux omoplates au sol, c'est fini, patata. Bon, OK. Fait que il me montre un peu de trucs, puis là, bon, ça va. Puis, tu sais, moi, j'avais un grand frère qui était tough avec moi. Fait que, puis, par chez nous, ça jouait tough. Fait que, tu sais, j'étais capable d'en prendre. À un moment donné, au fil de notre petite pratique entre nous deux, je te l'amenais au sol facilement, tu sais, pour taf, puis encore une fois, puis une autre fois. Là, tu voyais que Richard, il était frustré de ça au bout. Mais moi, je savais pas pourquoi. Il disait, ah, oh, babin, neuf d'autres, let's go. Fait que ça s'arrête. On va à notre pratique le soir à Montréal. Le lendemain, il dit, viens, on retourne à mon centre. Parce que tu m'as eu hier, tu vas m'avoir cette année. Il dit, ouais, Rick, c'est prends pas ça de même, tu sais, on s'amuse. Ben, j'avais retourné à même endroit. Sauf qu'il y avait comme des fenêtres judo. Mais moi, qu'est-ce que je ne savais pas? C'est Richard Babin était champion québécois en lutte, dans ma catégorie. Puis moi, j'arrivais de nulle part. Tu sais, je viens des Bois-Francs, un petit village qui s'appelle Warwick, à côté de Victoriaville. Puis, c'est pas plus que ça. Tu sais, sauf que j'avais comme une facilité en sport de combat, tu sais, sans le savoir. Fait que là, son coach Dunbury, était là en arrière. Puis là, Richard avait parlé à son coach, hein, puisque je vois au téléphone, qui disait, il y a une bébête qui vient, là, qui va venir demain. Écoute, il me renverse comme je suis pas capable de rien faire. Puis tatatatata. Fait que c'est comme ça, c'est parti cette idée-là. Puis là, coach Dunbury, il dit, d'où tu te sors, toi? Puis c'est comme ça, c'est parti. Puis à un moment donné, suite à ça, j'ai eu une invitation avec l'équipe du Québec. J'ai fait des compétitions au niveau civil. Puis là, c'est drôle, c'est dans le coin de la Pocatière. À une certaine époque, la moitié de l'équipe nationale en lutte olympique s'entraînait à la Pocatière avec Pierre Jalbert, un éducateur physique. On parle de là, 25, 30, 30 ans maintenant. Mais c'est comme ça que ça s'est développé. Puis là, de compétition en compétition, je me suis classé pour les Jeux du Canada qui avaient lieu un an après. Puis par la suite, sur la scène internationale, puis des compétitions, etc. Puis je dois avoir fait plus de 200 combats, jusqu'à temps que je me blesse un coude, une déchirure des ligaments, qui a fait qu'il a arrêté. Mais à cette époque-là, j'étais vu comme un espoir olympique, là, tu sais.
Ah, mais c'est quand même particulier qu'un de vos amis dise, hey, Alain, viens faire un tour, on va faire de la lutte, je t'explique un peu le concept. Boum, 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 vous le virez de bord, puis là, il comprend rien. Le lendemain, j'imagine que sa nuit a dû être difficile dans sa tête. Le lendemain, vous faites rencontrer le coach, puis et vous commencez la lutte gréco-romaine. Vous aviez pas nécessairement pris énormément de cours avant de débuter ça, là.
Non, 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 c'est ça. C'est intensif, très intensif,
OK.
mais je voulais apprendre, puis je trouvais ça le fun. Puis là, déjà, il miroitait, on était, je pense, dans les années 80, quelque chose. Il y avait les Olympiques de 84 qui s'en venaient. Fait, je trouvais ça intéressant. Puis là, bon, déjà là, je venais de battre le champion du Québec. C'est Ouzneck, c'est qui le prochain, tu sais? Fait que, il y a eu des compétitions des Maritimes, en Ontario, dans l'Ouest canadien. Puis après, on allait, qu'est-ce que c'était le fun? Puis j'ai eu des belles rencontres. On allait du bord des Américains. Puis là, je voyais que je luttais avec tous des gars NCAA, mais la plupart des gars, ils arrivaient avec leur veston de football. Parce que NCAA, souvent, high school, puis même au niveau universitaire, ils permettaient que l'étudiant athlète puisse faire deux sports. Souvent, tu pouvais faire football, athlétisme ou wrestling en anglais, et football ou basketball avec un autre sport. T'sais, fait qu'on voit ça souvent au niveau américain, dans les high school, les gens ont plus qu'une saison. Ils permettent de faire plus qu'un sport. Tu joues au hockey durant l'hiver, tu vas peut-être jouer à la crosse au printemps, ou tu joues au basket, puis tu vas aller faire du cross-country à l'automne. Tu vois le genre. Fait que c'est un peu comme ça. Puis là, je rencontrais plein de personnes qui faisaient du football, puis aussi de la lutte. Puis Richard Babin, il a eu une belle carrière avec les Stingers de Concordia. Puis moi, j'ai joué à l'Université Bishop aussi, puis on se rencontrait encore, là, c'était drôle,
Ouais. Puis
à
votre
ce bout.
histoire me fait penser un peu à, je pense, au premier film de Mike Tyson où il commençait à comprendre qu'il y avait un certain talent en boxe. Puis à un moment donné, son entraîneur peut pas se rendre pour je me rappelle plus quelle raison. Et suite au combat, l'entraîneur qui était adjoint appelle l'entraîneur pour dire, hey, il l'a battu en 7. Il dit, quoi? Il l'a battu au 7e round? Non, 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 en 7 secondes. Et là, le coach de... Tu sais, parfois, on peut avoir un talent dans quelque chose sans nécessairement de savoir d'où ça vient, puis ça semble vous avoir profité pour ce qui est de la lutte gréco-romaine. Alain Lapointe, as-tu déjà eu des difficultés dans la vie, dans un sport, que ce soit la
Oui.
lutte
Écoute,
gréco-romaine ou un...
puis là, je vais t'amener ailleurs, c'est parce qu'en 84, moi, je visais une participation aux Olympiques de Los Angeles, mauvaise blessure au coude. Là, tout ton investissement de temps puis de sacrifice, que je pourrais dire, tombait à l'eau. Là, tu pognes vraiment un gros down, un genre de dépression un peu. Là, tu te dis, bon, c'est quoi, qu'est-ce que je fais? Fait que, veux pas, ça a un effet sur tes études, tu cherches, bon, etc., etc. Mais, tu sais, une chose que moi, je dis souvent à mes étudiants, comme mes athlètes, quand une porte se ferme, il y a un autre qui se rouvre. Ben, moi, en 84, ma carrière de coach a commencé là. Fait que ma carrière d'athlète s'est fermée. Puis, à un moment donné, c'est vraiment l'avenue du coaching que j'ai trouvé passionnant de pouvoir inculquer puis transmettre ce désir de vaincre-là à d'autres, puis essayer d'inculquer la confiance, le dépassement de soi. Ben ça, moi, ça m'a nourri même encore plus que comme un athlète. Parce que, tu sais, ça reste que c'est un ego trip là, quand tu es athlète, mais quand tu es capable de partager des valeurs, quand tu es capable de transmettre des choses que tu crois profondément, ben ça va avoir un espace, une espérance de vie beaucoup plus grande que juste ton temps que tu passes sur la planète. Moi, je sais qu'une multitude de mes anciens joueurs sont rendus des gens dans la communauté, dans le sport, mais aussi en affaires. Puis je sais qu'ils ont eu, comme moi, c'était le cas pour moi, il y a eu des valeurs inculquées à travers le sport qui permettent de dire, ben, la chaîne de cette dimension-là, de ces valeurs-là, se poursuit dans le temps. Puis ça, pour moi, ça a une grande valeur. Puis comme tel, oui, j'étais vraiment un bon dropout à l'école. Je vais te dire, je suis certain que certains de mes enseignants, mes professeurs, ils me regardent mon cheminement, puis on se dit, quand est-ce qu'il a eu son chemin de Damas, ce gars-là? Parce que, tu sais, moi, j'étais le genre de rentrer dans un cours de philo, puis mener le trouble, puis aller voir le prof à la fin, tu sais, j'étais un peu bully, qui disait, regarde, t'as vu, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dans ton cours? Fais-moi un travail de session, je vais aller le faire à la bibliothèque, puis on se revoit à la fin de la session. Tu vois, genre, là, j'étais un peu comme ça, là. Puis à un moment donné, ben, tu te dis, tu veux-tu, je savais que j'avais beaucoup d'énergie, je savais que j'avais cette force-là en moi, là, cette énergie-là pour déplacer peut-être des montagnes, mais la montagne que j'étais, c'était un volcan. Puis un volcan, oui, ça crache, mais c'est pas précis, puis il y a beaucoup de pertes. Tu sais, quand tu vois l'explosion d'un volcan, là, ça va dans tous les sens. La journée, j'ai compris que je pouvais devenir un laser, canaliser mon énergie, faire de quoi de concret, significatif. C'est la journée que j'ai compris que là, regarde, Alain, je suis là une seule fois sur la Terre. Ben, si je suis là juste une seule fois, elle peut-tu être significative, ma vie? Puis à travers le coaching, ben là, tout est devenu plus clair, tu sais. Puis je suis retourné, j'ai fait ma première formation en travail social, j'ai travaillé avec la délinquance. Fait que, tu sais, c'était facile pour moi, là, tu sais, c'était facile de m'entendre comme il faut avec les délinquants. Puis par la suite, je suis retourné faire un autre bac en éducation physique parce que là, j'avais vraiment l'amour du sport. Puis vouloir être meilleur, ben ça passe par la formation. Puis en voulant être meilleur, ben la connaissance donne la confiance. Puis la confiance donne la conviction. Fait que c'est facile à ensuite être un entraîneur quand tu as toute cette dimension-là avec toi, là.
Coach Lapointe, vous semblez avoir un talent naturel pour affronter l'adversité. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont constamment de l'adversité, que ce soit dans leur vie professionnelle ou leur vie personnelle, il y en a qui ont toujours de la difficulté à affronter l'adversité. Ils ont toujours l'impression que la vie est plus dure avec eux qu'avec les autres êtres humains, alors que tant aussi longtemps que tu marches pas des mêmes bottines que l'autre, tu sais pas si sa vie est aussi dure que la tienne. Mais on a toujours l'impression que la vie des autres semble plus simple que la nôtre. Pour les gens qui font toujours face à l'adversité puis qui sont jamais capables de la surmonter, cette adversité-là. Vous semblez avoir un don naturel. Je ne sais pas si vous avez énormément lu quand vous étiez jeune étudiant, mais il y en a qui sont pas capables. C'est quoi qu'un coach pourrait leur dire, tu sais, concernant l'adversité?
Ben, moi, je dis, la première chose à faire, puis je vais te donner une anecdote de ce matin. Je m'en viens travailler, j'ai 3 quarts d'heure de route sur des petites routes de semi-secondaires, paf, un camion, paf, une roche, mon pare-brise. Mais ben, le premier réflexe que j'ai, au lieu de dire à donner puis maudire les dieux, je me suis juste souvenu qu'une collègue de travail combat justement un cancer. Au lieu de toujours de se dire, ah, si la vie est dure avec moi, regardons qu'est-ce que tu as, là. Regarde qu'est-ce que tu peux faire avec qu'est-ce que tu as, là. Puis compare-toi un petit peu, là. Puis tu vas voir, là, regarde, souvent tu es en santé, tandis qu'il y en a d'autres qui n'ont pas en santé. Souvent tu as été dans un milieu difficile, oui, peut-être, mais est-ce qu'il se compare avec qu'est-ce qu'on vit en Afrique ou encore en Ukraine? Fait que, tu sais, c'est facile, là, tout de suite, de bâtir une attitude face à ça, t'sais. Moi, un matin, là, je dis, ah, regarde, je vais appeler mon assureur, je vais appeler mon chum qui change les pare-brises, puis ça va me coûter 250$, mais je suis enchanté. C'est quoi 250$? Assez pour rater ma journée? Jamais. Jamais. Puis je pense encore la dame là, qui combat justement, qui passe des examens, puis des tests, puis à des jeunes enfants, elle donnerait-tu son 250$? Fait que, tu sais, en partant, là, quand tu es capable de relativer qu'est-ce qui se passe, ben, tu deviens fort, là. Tu deviens solide. Tu sais, tu dis, non, non, regarde, puis je répète encore, tu es capable, toute ta vie, là, tu as été capable de passer à travers des défis. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as fait. Ça va te stimuler à dire, hey, j'en ai vu d'autres. Je suis capable de le faire. Puis, va chercher de l'aide si tu as de la misère. Faut être fort pour aller chercher de l'aide. Faut être fort pour aller chercher de l'aide. Tu sais, le monde, il dit, ah non, toi, t'es sans foi. Non, non, non. Tu sais, le courage, là, ça vient pas de moi. J'aurais aimé ça être le premier à le dire. C'est le général Patton qui disait, le courage, là, c'est pas l'absence de crainte face au danger. C'est la capacité d'agir. Hey, c'est une belle phrase, ça. Le courage, ce n'est pas l'absence de crainte face au danger, c'est la capacité d'agir. À un moment donné, là, tu es là. Tu es au mur. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'avancer. Tu ne peux pas t'écraser.
Ouais. Parler avec des gars qui ont été en théâtre de guerre dans d'autres pays, puis ils mentionnaient les fameux 3F. L'être humain en théâtre de guerre, il va être confronté à ces 3F-là. Fuir, figer ou foncer. Si tu fonces, tu as des raisons de t'en sortir, t'as des possibilités de t'en sortir. Si tu figes, tu deviens la cible idéale pour le sniper qui est plus loin. Et si tu fuis, ben toute ta vie, tu vas être confronté avec toi-même en disant, j'ai fui le théâtre de guerre, j'ai abandonné mes amis. Mais si tu fonces, au moins, tu as des chances de gagner. Mais ces 3F-là m'ont marqué. Je veux dire, je ne savais pas que les gars se donnaient ça comme façon de faire en théâtre de guerre. Fuir, figer ou foncer, comment tu vas réagir? Parfois, il y en a qui ont peur. Tu sais, on parle de différentes étapes de la vie, sont pognés dans un carcan, puis ils se disent, ben, ce que j'ai là, je suis capable de le contrôler, même si ça me fait souffrir, mais l'inconnu me fait peur. Qu'est-ce qui va arriver après, tu sais? Maîtriser ses peurs.
Tu sais, il y a une phrase qui est intéressante, puis c'est une autre petite tranche de vie. Tu sais, une équipe de football universitaire, c'est une centaine de joueurs. Imagine quand on fait la photo d'équipe. Rajoute une dizaine de coachs, puis là, il y a toujours des comiques là-dedans. Fait que moi, là, j'aime pas ça, perdre de temps. On prendra pas une heure pour faire une photo, là. Faut que ça se fasse de même. Photographe arrive par. Tu sais, qu'est-ce que je dis aux gens, aux joueurs là, qui ont tendance à être les petits comiques? Je leur dis, la photo que vous prenez là, c'est la photo qui va être accrochée au mur. Puis, rappelle-toi l'allure que tu vas avoir l'air, parce que c'est ça que tu vas présenter à ta famille par la suite. Tu dis, regarde, papa, là, regarde le regard. J'ai déjà été jeune, j'ai déjà eu des cheveux sur le caillou, puis j'ai joué à 20 ans dans telle équipe. Mais c'est surtout, moi, je leur dis, qu'est-ce qu'on va se rappeler de toi? Tu sais, on parlait là, avec le coaching staff et tout ça, l'attitude à avoir avec les nouvelles générations. Ben moi, j'ai compris, puis à travers mes études, puis mes recherches, puis mes lectures, le vrai pouvoir, là, avec une équipe, il est transversal. C'est entre les individus. Quand tu parlais des gars qui ont connu là, justement le front, le combat, là, hey, le gars à côté de toi, là, c'est la personne la plus importante. Alors, c'est la même affaire. Quand on prenait une photo, qu'est-ce que tu veux représenter? Qu'est-ce qu'on va se rappeler de toi dans 20 ans quand on va voir cette photo-là? Un club ou un gars qui était fier d'être là à côté de son meilleur chum, son best friend à côté, tout ça. Fait que c'est un peu dans cette optique-là, moi, ma philosophie de coaching. Comment veux-tu qu'on se rappelle de toi? T'as beau être le meilleur gars, tu peux être millionnaire aujourd'hui, mais si dans le passé, tu étais un tricheur, ben, les gens, les contemporains qui t'ont connu, ils savent que toi, tu es juste un tricheur. Mais si tu es capable de transmettre ton intégrité, si tu es capable, tu étais là pour tes collègues, si tu étais là dans les moments durs, ben ça, là, ça a une valeur inestimable. Ben, du moins pour les humanistes, pour les gens à l'argent, c'est une autre histoire, mais moi, je suis pas dans ce gang-là.
Ouais. Y a-tu un secret pour le succès, coach? Y a-tu une mécanique qu'on peut se doter à l'intérieur de nous qui va faire en sorte qu'il y a de fortes chances qu'on réussisse avec ce mécanisme mental-là qu'on s'insère?
Ben oui, c'est très simple, là. Je ne veux pas faire un cliché, mais le travail, la préparation. La préparation va donner cette confiance-là qui va te permettre d'être confronté, puis d'affronter, puis d'exiger des défis, là. Fait que le travail va t'amener au succès. Tu n'auras pas le succès avant le travail. Il y a une phrase, là, bidon, qui dit seule place que tu trouves le succès avant le travail, c'est dans le dictionnaire, là. Mais c'est vrai pareil. Si tu veux être le meilleur, fais-en plus. Si tu veux, là, moi, je disais à mes étudiants comme mes athlètes, pense juste faire, exemple, 15 minutes de plus ou 15 redressements assis de plus que tu n'aurais fait hier, tu sais. Calcule ça, rajoute ça au fil des temps. Après 6 mois, as-tu pensé le nombre de milliers de redressements assis? D'après moi, tes abdominaux vont être plus solides que si tu n'avais rien fait. Le bon athlète arrive 15 minutes avant, puis prépare là, tes habiletés de base. Mais d'après moi, tu vas être encore meilleur que celui qui n'a rien fait. L'homme d'affaires, là, arrive plus tôt que la concurrence. Prépare ta journée. Bien, tout ça, là, calcule ton petit 15 minutes ou ta petite demi-heure de plus au fil des semaines, au fil des mois, l'avantage que tu vas créer sur les autres parce que justement, tu as mis de la préparation nécessaire pour atteindre le succès. Le succès, ce n'est pas gratuit. C'est du travail, c'est de prendre les bonnes décisions, mais les bonnes décisions se font à chaque jour.
Sur votre site web, il y a des petites phrases qui m'ont grandement inspiré, puis j'aimerais le partager avec les auditeurs. By the way, votre site web, c'est animaconférence au pluriel formation.com ou juste à taper Alain Lapointe conférencier, vous allez tomber dessus. Vous dites, si vous pensez que vous allez perdre, vous serez perdu, car gagner commence avec la volonté de vaincre. Les batailles de la vie ne sont pas toujours remportées par le plus fort ou par le plus rapide, mais tôt ou tard, la personne qui gagne est celle qui croit qu'elle le peut.
Voilà. Et quoi dire de plus?
C'est comme ça que vous inspirez les gens en conférence.
Ah ben oui, écoute, moi là, les gens qui viennent là, je leur dis, vous êtes tellement meilleurs que vous le pensez. Allez chercher ça là. Tu sais, ben, je fais un petit jeu de mots avec mon nom, la pointe, puis la pointe de l'iceberg. Ben, je dis, la partie qu'on voit du glacier là, c'est qu'est-ce qu'on voit, mais tout votre potentiel est sous l'eau là. Mais juste un petit pourcentage, là, allez chercher qu'est-ce justement qui est sous l'eau, puis on va le faire sortir, là. Vous êtes pas mal plus fort. Vous êtes pas mal plus persévérant que vous le croyez. Croyez en vous. Vous êtes capable de le faire. Mais tu sais, des fois, c'est un déclic de dire, bon, ben, let's go, tu sais.
Mais les gens qui écoutent Alain Lapointe, qui se disent, oh, ben, tu sais, on sait bien, lui, là, il a toujours été chanceux. Y a-t-il une part de chance dans le succès d'un individu, que ce soit un homme d'affaires ou une femme d'affaires? Y a-t-il vraiment une part de chance là-dedans?
Ben, moi, je vais te dire honnêtement, dans ma carrière, moi, la chance n'a jamais été un facteur. Puis même, d'ailleurs, moi, j'aime dire que moi, je suis bon quand c'est difficile. Parce que, écoute, quand il y a un job, une option, là, tu sais, ils vont toujours penser. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand on a parti le programme universitaire, les organisateurs aurait voulu avoir un grand nom qui avait joué dans la Ligue canadienne de football parce que, tu sais, c'est le glamour associé. Je n'étais pas le premier choix, tu sais. Je n'étais pas le deuxième choix, c'était le quatrième choix, tu sais. Parce que les autres avaient refusé, parce qu'ils se disaient, ah, Chris, c'est bien trop dur, je vais perdre ma carrière, je ne serai jamais capable de. Mais moi, je savais que j'avais fait, là. Puis je savais, tu sais, cette capacité de dire, regarde, moi, je crois en moi assez, là. Puis je vais le faire. Je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Donnez-moi une chance, je vais apprendre. T'sais. Mais ça, c'est la partie de la confiance. T'sais. Puis il faut que tu aies vécu des choses, ces expériences. Puis il faut se rappeler une chose, hein. Il n'y a pas de réussite qui ne passe pas par l'échec. Mais on a tellement peur de l'échec, on n'a pas peur de l'échec pour soi-même. On a peur de l'échec pour le regard des autres sur soi-même. Enlève le regard des autres, là. Hey, tout le monde qui a appris à patiner, là, les premières fois, tu étais pas mal plus sur ton séant que tu étais sur tes patins. Ça t'a-tu empêché de continuer? Non, parce que ta volonté de réussir à patiner comme ton grand frère, comme ta grande sœur, était tellement plus grande que ta crainte de ne pas être capable, tu disais je recommence, je recommence, je recommence. Mais c'est la même affaire dans la vie. C'est la même affaire. Si tu acceptes de dire que de passer d'un insuccès à succès, moi j'aime mieux dire un insuccès, parce que si tu es capable d'apprendre de cette un succès-là, ben, ça va t'amener à la prochaine fois à dire, OK, ça n'a pas marché. Tu vas le faire autrement, ça va marcher. On dit tout le temps que Edison, celui qui a inventé l'ampoule électrique, il y a un peu de légende à travers ça. Ça a pris 1 000 prototypes avant que ça fonctionne. Mais lui, à chaque fois, il amenait ça à une dimension différente. Il disait, OK, l'épreuve 597, pour telle raison, ça n'a pas marché, mais en faisant l'épreuve 598, en faisant telle façon, sur mon hypothèse, peut-être ça va marcher. Puis à un moment donné, exactement, sa somme de non-succès a amené à avoir le succès. Fait que tu bâtis, tu construis, tu apprends. Fait que tu ne perds pas. Nelson Mandela, il dit, moi, je gagne à tous les jours, sinon j'apprends. Quelle belle phrase. Je gagne à tous les jours, sinon j'apprends. Lui, il ne voyait pas un échec comme un échec, mais comme une phase d'apprentissage pour devenir meilleur.
Non, puis on parlait de résilience tantôt. Dans son cas à lui, c'est un bel exemple de résilience.
Incroyable.
27 ans en tôle, 27 ans en tôle
Exact.
pour quelque chose qui avait du bon sens, c'est-à-dire de lutter contre l'apartheid. Il voulait juste être reconnu comme. Il voulait que les gens de sa couleur soient reconnus comme les autres couleurs. Il se ramasse 27 ans en dedans, puis après ça, devient président du pays. Quelle histoire, tu sais. Quelle
Quelle
histoire.
histoire. Puis qu'est-ce qui était extraordinaire, c'est que à l'intérieur, même ses geôliers, ses gardiens, elle le respectaient. Puis lui, il appelait ça l'université Mandela. Et lui, il donnait confiance aux gens. Même si toute la journée, il cassait du caillou, tu sais, il était aux travaux forcés. Faut pas oublier, là, il était pas. Ça n'a rien à voir avec les pénitenciers du Canada, là. Et c'était dur. Puis pourtant, il gardait. Il savait pourquoi il était là. Puis il n'a jamais fléchi. Il y a même fois que le gouvernement d'Afrique du Sud a dit, bon, on te libère, mais tu vas être exilé. Il dit, non, non, je crois à ma cause, puis j'en démords pas.
Ouais.
Incroyable.
Je veux reculer un peu parce que vous avez parlé du fait que vous auriez peut-être pas été le premier choix quand on cherchait quelqu'un pour s'occuper du verre et or. En fait, vous étiez un underdog. Donc, vous étiez
Oui.
quelqu'un qui était pas sous les projecteurs. Puis à un moment donné, vous avez eu cette job-là, vous avez dit, je l'ai eu, c'est le temps justement de montrer ce que je sais faire parce que vous aviez confiance en vos moyens. Des fois, on rencontre des gens qui disent, ah ben moi, les sports, j'ai jamais été bon là-dedans, j'étais jamais le premier choisi au ballon chasseur et tout ça. Puis ces gens-là ont jamais exploré d'autres sports parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils n'étaient pas nécessairement bons là-dedans. Parce que quand ils étaient jeunes, ils n'étaient jamais choisis les premiers. Mais à un moment donné, vous avez fait un sport. Dans votre cas, vous avez fait un sport, puis sans le savoir, vous avez battu un champion canadien de lutte, alors que vous n'aviez pas nécessairement d'expérience là-dedans. C'est pas parce qu'on n'est pas bon dans quelque chose qu'on ne sera pas exceptionnel dans un autre.
Oui, mais à vrai dire, cher ami, c'est vrai que je n'avais pas de combat sur un tapis de lutte, mais la vie faisait en sorte que j'avais connu la ruelle amplement et amplement. Alors, je pense que j'avais un super bagage qui faisait en sorte que j'étais préparé pour. Mais ça, c'est tout ton apprentissage parallèle. Et c'est important, tu sais. Tu deviens jamais, tu sais, il n'y a pas juste en classe qu'il faut faire de toi un bon gestionnaire. C'est tout le bagage que tu as parallèlement dans tes petits jobs de week-end ou dans ton sport qui fait de toi le bon gestionnaire plus tard. Faut que tu ailles chercher ça de façon parallèle, puis en faire justement ta nourriture pour te nourrir puis continuer vers l'avant.
Exact. Ce soir, on a le plaisir de passer quelques minutes en compagnie de Alain Lapointe, qui est conférencier, coach sportif de renommée nationale et auteur, auteur d'un livre exceptionnel qui s'appelle Persévérer, la réussite est proche, motivation, réflexion et persévérance. Puis pour ceux qui trippent vraiment football, la naissance d'une équipe, il parle de son histoire avec le Vert et Or de Sherbrooke, un super livre aussi. C'est toujours accessible, ça, coach Lapointe?
Oui, c'est aux éditions Crescendo. C'est une maison d'édition de la région de Québec. Vous pouvez le demander dans les Renaud-Bray, Archambault et compagnie, vous pouvez le trouver, ou encore vous le faites dans les catalogues, facile à rejoindre par Internet.
On s'arrête quelques secondes et on revient tout de suite après. Mon invité ce soir, un invité exceptionnel, encore une fois, Alain Lapointe, qui est conférencier, coach sportif de renommée nationale et auteur. En faites-vous beaucoup encore des conférences, coach Lapointe?
Écoutez, ça dépend des mandats que j'ai comme consultant. Comme là, moi, je suis heureux de pouvoir vous dire que je travaille avec mon alma mater là, de ma région natale, le Cégep de Victoriaville. Puis je suis consultant pour un projet exceptionnel. On va reconstruire le centre sportif collégial un projet de plus de 18 millions. Fait que moi, ça prend comme 3 jours de ma semaine. Puis je suis vraiment privilégié parce que c'est un endroit où je me suis bâti. Tu sais, on parle de ma carrière universitaire, mais s'il n'y avait pas eu le cégep de Victoriaville, il n'y aurait pas eu l'université de Sherbrooke. Fait que là, j'ai la capacité de pouvoir donner un coup de main, mettre mon épaule à la roue, je le fais. Puis le reste du temps, ben, il me reste 4 jours pour justement mon plaisir comme conférencier. Puis j'en fais à peu près une quinzaine de conférences, 15 à 20 par année, mais c'est surtout l'écriture qui prend de mon temps. J'ai comme 3 livres là, qui sont sur ma table. Puis j'y vais, je suis ponctuel, je travaille presque à chaque jour un peu mon écriture pour ça.
Est-ce qu'il vous reste des rêves à accomplir? Est-ce qu'il vous reste des objectifs à accomplir? Parce que vous êtes un homme bien
Oui, oui,
accompli,
oui.
est-ce que
Puis
vous...
qu'est-ce qui est le fun, c'est que à chaque moment de ta vie, tu en as des objectifs. Moi, je vous dis là, à 52 ans, pour une raison exceptionnelle, j'ai fait 12 heures de kayak non-stop. À 52 ans, 51, 12 heures. À 52, j'ai fait 12 heures de course non-stop. À 53 ans, je faisais 24 heures non-stop de kayak, de course et de vélo. Rien que vous dire, je suis loin d'un super-homme, puis je suis encore moins un super-athlète. Mais comme je disais au début, la préparation, puis l'esprit va faire que tu es capable de relever n'importe quel défi. Présentement, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est faire des montagnes, faire du vélo. Je m'entraîne, je fais du kayak, j'ai la chance de rester sur le bord d'un lac, fait que je fais du kayak pendant la belle saison. Mais je suis un grand amateur de hiking. Puis là, maintenant, c'est de profiter avec mon épouse, justement, de faire des voyages. J'adore l'histoire, fait que j'aime me promener dans les lieux historiques, l'Europe en particulier. C'est intéressant pour ça, oui.
Ben oui, profitez-en. Est-ce que vous écoutez encore le football pas mal?
Oui, puis je vais te dire, plus qu'avant, parce que quand tu es coach, tu passes entre 60-80 heures dans ton bureau à Quevoir, c'est presque abrutissant, tu es juste dans ton équipe, dans ton univers. Là, ça me permet de faire des voyages. Je vais plusieurs fois, je vais voir des matchs universitaires, mais sans aucune pression, bien assis, puis je salue mon monde. Ou je vais encore voir des matchs NCAA ou encore NFL, mais c'est que du plaisir. C'est vraiment plaisant.
La saison est trop courte, par exemple. C'est trop long, là, entre le Super Bowl puis le début de la saison. On dirait que, je sais pas. Est-ce qu'on pourrait rallonger la saison de la NFL? Ce serait bien.
Non, non,
Non?
physiquement, c'est trop long. Puis je vais te dire, c'est un peu comme le goût des fraises. Si tu manges des fraises à l'année longue, tu n'aimeras plus les fraises. Quand il y a une période, tu te dis, ah, c'est la période des fraises, ça te donne le goût. Mais c'est la même affaire. Moi, je trouve que c'est le fun de garder des matchs. Le baseball, c'est l'été, ça se prend bien. Le football, c'est à l'automne. Le hockey, c'est l'hiver. Moi, j'aime ça rester dans les saisons. Puis avoir un petit peu une dette. Tu sais, moi, j'ai hâte quand ça recommence. Moi aussi, je suis comme toi, là. Quand on écoute le Super Bowl, on dit, ah, on a pour une couple de mois sans football. Mais quand ça revient en septembre, là, t'es heureux, là, tu sais.
Ouais. Oui, il y a des histoires que j'adore au football, puis ça peut être un lien avec ce que je fais comme métier, de recevoir des gens qui sont inspirants comme vous, coach Lapointe. Tu sais, l'histoire d'Adam Purdy, de Brock Purdy, pardon, l'histoire de Brock Purdy qui est dernier choix au repêchage. Normalement, ce choix au repêchage-là, on le donnait peut-être à quelqu'un de l'organisation qui avait un fils quelque part qui jouait au foot, puis on voulait lui faire plaisir. Puis le gars se ramasse un des meilleurs corps arrière de la NFL. T'sais, on parlait de résilience tantôt, on parlait d'underdog, des gens qui y croient, qui sont capables de parvenir au sommet. Brock Purdy, ça a été ça. Dernier choix au repêchage, pouf, devient corps arrière incroyable dans la NFL.
Oh, tout le monde connaît maintenant Tom Brady.
Oui,
Mais Tom
exact.
Brady, là, c'était le 299e choix. Fait que ses chances de survie là, avec les Patriotes, s'il aurait parti dans cette optique-là, il dit, ah, ben regarde, il y a 198 personnes avant moi, fait que j'ai pas une grande valeur. Lui, il a dit, non, non, non. Non, non, non. Je vais le faire, tu sais. Je pense juste à Pierre-Luc Labbé. Pierre-Luc Labbé, il a joué avec Winnipeg, c'est un gars de Québec, un très bon joueur. Il a joué avec Félix Garneau, il a joué chez nous, puis il a été capitaine d'équipe avec les Winnipeg. Puis lui, il avait le numéro 47. C'était l'avant-dernier choix au repêchage de la CFL. C'était 48. Quand il est arrivé au camp d'entraînement, il dit, hey, le trainer, donne-moi le 47, je vais le remontrer à tout le monde qui se sont trompés. Ça, c'est une attitude. Ça, c'est une attitude.
Ouais.
Ben, tu sais, Brady, tous ces gars-là, ils sont inspirants, là, tu sais.
Ouais. C'est inspirant, c'est des belles histoires. Puis quand on en apprend un peu plus sur leur histoire, on voit que ces gens-là étaient condamnés à devenir exceptionnels. Je me souviens d'une entrevue, j'étais à Morrisburg, en Ontario, je faisais de la plongée sous-marine. Puis le soir, j'étais dans ma chambre, j'étais dans un motel, puis j'écoutais la télé. Puis c'était Tom Brady qui était là avec son entraîneur. Puis le reporter demande à Brady, mais lors de votre dernier Super Bowl que vous avez remporté, est-ce que vous avez pensé à prendre votre retraite? C'est une belle retraite, vous avez gagné le Super Bowl. Il dit non. Mais il dit à quoi vous avez pensé? Ben, je pensais en gagner un autre Super Bowl. C'est des gens qui, au niveau du mindset, c'est des gens qui veulent constamment gagner, sont dopés à la victoire.
C'est des gens de. T'en as pas une multitude comme ça, là. C'est des phénomènes.
On a besoin de ces gens-là dans nos équipes de travail, mettons, pour peut-être briller autant qu'eux. Puis on peut s'en inspirer aussi. Coach Lapointe, ça a été un plaisir pour les gens qui veulent avoir accès à vos conférences, vos formations, à vos livres aussi. On peut vous retrouver à quel endroit?
Ben, vous avez nommé, peut-être, vous avez la chance avec les agences avec qui je fais affaire comme conférencier, puis peut-être retenir peut-être juste mon courriel, coachlapointe@commercialgmail.com. C'est la façon plus facile de rentrer en contact avec moi. Puis on verra les possibilités. Puis c'est le fun parce que moi, j'adapte souvent le message selon la clientèle, si j'ai affaire avec une clientèle scolaire ou si j'ai affaire à des ouvriers dans un chantier ou des gestionnaires dans un building, mais je suis capable de m'adapter puis trouver le meilleur pour faire passer les messages.
Coach Lapointe, ça a été un plaisir.
Ben, au plaisir, mon ami.
Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 et demain, 11 h, on se retrouve pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été.